VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Robin Dorsil et Morgane Guériec, bienvenue à cette édition du mardi 3 février. À la une ce soir.
Lutte contre Boko Haram, les troupes tchadiennes libèrent la ville de Gambaru auprès du Cameroun.
La ville est totalement sécurisée et les opérations de ratissage se poursuivent.
Nous écouterons le ministre tchadien de la Communication, Hassan Sylla.
Dans le nord du Mali, les forces françaises de l'opération antiterroriste Barkhane ont neutralisé un groupe armé.
Au Togo, le ministre de l'administration territoriale affirme que l'élection présidentielle se tiendra à la mi-avril. La Cour constitutionnelle avait pourtant annoncé le 5 mars.
Le groupe État islamique dit avoir brûlé vif un pilote jordanien.
Ici aux États-Unis, 9 importantes raffineries sont affectées par une grève des salariés qui réclame de meilleurs salaires.
Nous aurons également nos segments sur la Coupe d'Afrique des Nations et l'économie, mais d'abord le journal.
Des troupes tchadiennes ont libéré ce mardi Gambaru, ville du nord du Nigeria, à la frontière avec le Cameroun. Une ville qui est assiégée depuis plusieurs mois par les islamistes du groupe Boko Haram. L'information a été confirmée par le ministre tchadien de la Communication, Hassan Sylla.
Les troupes tchadiennes qui étaient en protocole au Cameroun ont été attaquées par Boko Haram et elles ont riposté énergiquement. Et c'est ce qui fait que nous avons utilisé de notre droit de poursuite. Et en les poursuivant, les forces sont arrivées jusqu'à libérer la ville de Gambaru. Au moment où je vous parle, la ville est totalement sécurisée et les opérations de ratissage se poursuivent pour rattraper toutes ces brebis galeuses et tous ces terroristes qui sont actuellement en débandade totale. L'objectif était de sécuriser nos frontières, les frontières camerounaises, c'était de faire en sorte que les frontières tchado-camerounaises soient sécurisées. Malheureusement, les forces du Mali, comme vous le savez, elles sont venues s'en prendre pour la énième fois aux forces qui étaient basées à Fotokon. Et elles ont réagi énergiquement en réservant un sort, comme on dit dans le langage militaire, en prêtant ces éléments comme il le faut. Elles ont mis en débandade et au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, elles ont permis à ce que la population de Gambaru puisse avoir un ouf de soulagement.
Le porte-parole du gouvernement tchadien, Hassan Sylla, joint N'Djamena par Jacques Aristide.
Le ministère français de la Défense a rendu public hier dans la soirée une information selon laquelle les forces françaises de l'opération antiterroriste Barkhane au Mali ont neutralisé un groupe armé dans la nuit de vendredi à samedi dans le nord du pays. Claire Morin-Gibourg.
Selon le très court communiqué du ministère de la Défense français, une douzaine de terroristes ont été mis hors de combat par les troupes de l'opération Barkhane dans l'Adrar des Ifoghas. Toujours selon le ministère, les forces françaises n'ont subi aucune perte. La dernière grosse opération française en date dans le nord du Mali remonte à la mi-décembre. Dans la région de Gao, des militaires de Barkhane avaient alors tué Ahmed El Tilemsi, l'un des principaux chefs des djihadistes opérant dans la zone. Ce Malien, membre fondateur du groupe djihadiste Moudjao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, était le chef du groupe Al-Morabitoun au Mali. La force Barkhane regroupe 3000 militaires qui agissent sur l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. Les attaques des groupes armés et accrochages meurtriers avec les casques bleus de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, sont en recrudescence depuis l'été.
Au Togo, d'après le ministre de l'administration territoriale, l'élection présidentielle se tiendra à la mi-avril. Pourtant, hier, la Cour constitutionnelle avait annoncé que le scrutin se tiendrait au plus tard le 5 mars. Idriss Fall.
Selon Gilbert Bawara, ministre togolais de l'administration territoriale, le scrutin devra se tenir à la mi-avril, mais la date précise sera déterminée en Conseil des ministres sur proposition de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour constitutionnelle a aussitôt fait marche arrière après avoir annoncé hier que le scrutin devait se tenir au plus tard le 5 mars, soit 60 jours avant la fin du mandat actuel de Faure Gnassingbé. Le leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, candidat à la présidence, a réagi hier en disant que ce délai du 5 mars était matériellement impossible à respecter. Le président Faure Gnassingbé a été élu en 2005, puis en 2010 dans des scrutins contestés par l'opposition. La constitution modifiée en 2002 a supprimé la limitation du nombre de mandats présidentiels. Le président togolais, qui n'a pas encore révélé ses intentions, peut donc légalement briguer un troisième mandat de 5 ans, ce que contestent vivement l'opposition et la société civile.
Manifestation d'écoliers en République centrafricaine. D'après l'AFP, ils étaient plusieurs milliers dans la rue de Bangui, bloquant la circulation aujourd'hui. Alors que les enseignants sont en grève depuis le 29 janvier, les écoliers exigent le droit à l'éducation.
Robert Mugabe, exceptionnellement autorisé à voyager dans l'Union européenne. Le président du Zimbabwe fait pourtant l'objet de sanctions, lui interdisant de se rendre en Europe. Mais cette interdiction sera levée quand il se déplacera en sa qualité de président de l'Union africaine, a indiqué une porte-parole du service diplomatique de l'Union européenne, cité par l'AFP.
Nouvel attentat en Égypte. D'après l'AFP, la bombe était dissimulée près d'un barrage de la police dans la banlieue d'Alexandrie. On compte un civil tué et 2 blessés, dont un adolescent de 12 ans.
En Égypte toujours, le journaliste Mohamed Fahmy était en passe d'être expulsé aujourd'hui, c'est ce qu'indique l'AFP. Le Canadien, travaillant pour Al Jazeera, a dû renoncer à sa nationalité égyptienne. Condamné à 7 ans de prison, il est accusé d'avoir travaillé illégalement en Égypte et falsifié des informations sur la répression contre des partisans du président islamiste déchu Mohamed Morsi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe État islamique a diffusé ce mardi une vidéo d'un homme en train d'être brûlé vif dans une cage et a affirmé qu'il s'agissait du pilote jordanien capturé après le crash de son F-16 en Syrie le 24 décembre. L'AFP rappelle que Maaz al-Kassabi menait un raid sur les positions de l'État islamique dans le cadre de la coalition internationale anti-djihadiste lorsqu'il a été capturé.
Nouveau combat signalé dans l'est de l'Ukraine entre l'armée et les séparatistes pro-russes. Au moins 22 personnes ont été blessées dans les dernières 24 heures, un bilan confirmé par les deux camps. Les autorités craignent une escalade de la violence suite à l'appel lancé hier par un chef rebelle à la mobilisation générale contre les forces gouvernementales.
Les nouveaux dirigeants grecs ont commencé à tester, avec quelques succès sur les marchés financiers, leurs idées pour sortir le pays de la spirale de la dette dans l'espoir d'aboutir en juin à un accord complet. C'est ce que rapporte l'agence France Presse, faisant référence à la tournée en Grande-Bretagne et en Allemagne du ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis. Il entend d'abord obtenir de ses partenaires européens, d'ici la semaine prochaine, la stabilité suffisante pour lui permettre de négocier un accord global avant le 1er juin, souligne l'AFP.
Le ministre canadien des Affaires étrangères a démissionné. John Baird, souligne l'AFP, était un poids lourd du gouvernement du Premier ministre Stephen Harper. Il était ces dernières semaines très impliqué dans le dossier de la libération d'Égypte du journaliste canadien d'Al Jazeera Mohamed Fahmy. Son départ surprend, d'autant qu'aucune explication n'a été fournie sur les causes de cette démission. Rappelez que John Baird s'était aussi fait connaître pour sa défense des droits des homosexuels à travers le monde.
Aux États-Unis, 9 importantes raffineries, dont certaines appartenant au groupe Royal Dutch Shell, sont affectées par une grève des salariés. Michel Joseph.
Le syndicat des métallos United Steelworkers a appelé les 38 000 salariés de 9 raffineries, dont 5 dans le Texas, 2 en Californie, 1 dans l'État de Washington et 1 dans le Kentucky, a cessé le travail pour obtenir de meilleurs salaires. Ces raffineries représentent 10% des capacités américaines de produits pétroliers. 4 raffineurs assurent qu'il n'y aura pas pénurie et que la grève ne va pas perturber l'approvisionnement des stations d'essence. 3 jours de négociations n'ont pas permis de trouver une solution. L'accord national couvrant les horaires de travail a expiré le 31 janvier et il servait de base de négociation sur les salaires. Le syndicat des métallos rejette les propositions faites par les directions et prévoit d'étendre les débrayages sur d'autres raffineries. Ce syndicat dit représenter les salariés de 65 raffineries, dont celles d'ExxonMobil et Chevron, comptant pour 64% des capacités américaines. Ces menaces tombent en pleine chute des prix du pétrole, ce qui réduit davantage la marge de manœuvre de certaines raffineries.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place maintenant au journal de la CAN avec Nicolas Pino.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique, J-1 pour les Congolais et les Ivoiriens avant la demi-finale. La République démocratique du Congo à 24 heures de son rendez-vous face aux Ivoiriens. Le milieu et capitaine des Léopards Youssouf Moulumbu, toujours incertain pour cette demi-finale selon le sélectionneur Florent Ibenge. Mais l'attraction du jour pour les Congolais, c'est la visite reçue, celle du président Joseph Kabila. Le point sur place avec Thierry Kambundi.
J'avais promis au sélectionneur de venir en cas de qualification pour les demi-finales. Me voici. C'est sur cette phrase que Joseph Kabila a ouvert son mot aux Léopards de la République démocratique du Congo qu'il a visité ce mardi à leur hôtel. Le président congolais a fait le déplacement de Bata pour encourager son équipe à remporter cette CAN. Joseph Kabila.
Je fais ce petit déplacement pour principalement vous voir, vous féliciter au nom de toute la nation congolaise, mais de deux, vous encourager. Nous sommes arrivés en demi-finale de la CAN, mais comme je l'avais dit à l'entraîneur, l'objectif, il ne faut pas que ce soit d'arriver en demi-finale. L'objectif pour nous, c'est de ramener la coupe à Kinshasa.
Jean-Florent Ibenge, sélectionneur des Léopards, se satisfait de la présence à Bata du président de la République démocratique du Congo, qui constitue selon lui une motivation de plus.
On lui avait demandé de venir, il est venu, il a tenu sa promesse, donc c'est bien de le voir. C'est toujours un moment exceptionnel de rencontrer le premier citoyen de la République.
Pour Youssouf Moulumbu, capitaine des Léopards, cette présence du numéro 1 de la RDC symbolise l'unité nationale autour des Léopards.
C'est bien pour nous les joueurs, on a vraiment l'impression que tout le monde est impliqué et là aujourd'hui on sent vraiment un Congo uni.
Bata, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Les adversaires des Congolais, les Ivoiriens, eux, sont présentés comme les favoris sur ce match. Pourtant, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Hervé Renard, a appelé ses joueurs à être humbles. On écoute Hervé Renard.
On a certainement beaucoup plus changé que la RDC, mais elle a aussi changé parce qu'elle a apporté une ou deux touches qui sont importantes, notamment Mbokani, qu'on n'a jamais vu évoluer contre nous, par exemple, durant les qualifications, et qui, là, est un joueur très, très important. On l'a vu en quart de finale, il a marqué deux buts et il pèse énormément, plus des joueurs offensifs qui sont capables à tout moment de faire la différence. Mais ça, on s'en était aperçu déjà, puisqu'on avait fait un match assez mouvementé à Abidjan. Sur nos deux dernières prestations, oui, on peut peut-être revenir avec une meilleure position pour les bookmakers, mais ça veut pas dire grand-chose. Hein. Et je le répète encore une fois, si on veut rejoindre cette finale, il va falloir être aussi bon qu'on l'a été contre le Cameroun et aussi bon qu'on l'a été contre l'Algérie.
Hervé Renard, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Et jeudi, l'autre demi-finale entre le Ghana et la Guinée équatoriale. Au total, ces deux demi-finales opposent l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale. Léger avantage sur le papier à l'Afrique de l'Ouest, comme nous dit notre consultant Jules Valentin Gouy dans son coup de sifflet.
Les affiches des demi-finales de la 30e édition de la CAN nous proposent une confrontation Afrique de l'Ouest-Afrique centrale numériquement équilibrée, mais apparemment à l'avantage de l'Afrique de l'Ouest sur le plan sportif, la surreprésentation de cette partie du continent étant devenue une évidence à ce stade de la compétition depuis une quinzaine d'années. L'Afrique centrale, aux abonnés absents avec l'éclipse du Cameroun, a le mérite d'avoir atteint le carré d'as pour cette coupe qu'elle organise chez elle. Mais les champions qu'elle présente considère déjà exceptionnel de se retrouver en pareille fête. La Guinée équatoriale, propulsée par une faute d'arbitrage flagrante, gagnerait à perdre sa rencontre pour sauver sa compétition. La RDC, mieux armée, mais très inégale dans ses prestations, affronte un commando ivoirien retrouvé que seule la victoire finale peut combler. Il est donc difficile de ne pas pronostiquer pour la finale un énième duel de feu entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, un remake de l'interminable finale de Dakar en 1992, que seuls des imprévisibles léopards de RDC sont encore capables de renvoyer au calendre grec. À demain.
Ainsi s'achève le journal de la CAN. Prochain point sur la compétition demain matin dans Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous sur voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Avec nous ce soir, Jean-Roger Billon, bonsoir.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le Maroc annonce un plan d'action pour soutenir son tourisme.
Ce plan veut réaffirmer la stabilité du royaume chérifien. Le Maroc, qui a dépassé pour la première fois les 10 millions de visiteurs en 2013, affiche l'ambition de doubler ce chiffre d'ici 2020. 11 millions de dollars ont été placés dans la cagnotte de la promotion. Le royaume a surtout à cœur de reconquérir les touristes français qui ont tendance à choisir d'autres destinations.
Relever le défi de l'autosuffisance en 2017 grâce au riz, c'est le défi de Macky Sall au Sénégal.
Le riz est une denrée prisée au Sénégal, mais l'essentiel est importé d'Inde, du Vietnam, de la Thaïlande et parfois du Brésil. Les importations de riz coûtent très cher au Sénégal et le président Macky Sall veut inverser la tendance en consommant local.
Il faut relever les performances de la filière et arriver à une totale autosuffisance en 2017. C'est clair, c'est net et c'est précis.
Macky Sall, chef de l'État du Sénégal, sur la RTS.
Le marché mondial des tablettes numériques grippé.
Après un démarrage fulgurant et une croissance des ventes à deux chiffres, voire trois chiffres, le marché des tablettes enregistre un très net ralentissement depuis plusieurs trimestres. D'après l'AFP, qui suit les analyses, Apple a conservé le premier rang mondial au quatrième trimestre avec une part de marché de 27 à 28,1%. Mais les ventes d'iPad ont diminué de 18% sur un an. On évoque une concurrence féroce pour iPad, notamment par les plus grands smartphones, appelés aussi phablettes, une catégorie dans laquelle rentre d'ailleurs le dernier iPhone 6 Plus d'Apple.
Merci Jean-Roger Billon, c'était la Minute Éco.
Morgane Guériec et Chérubin Dorcil, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, le Togo, où le gouvernement vient corriger un léger malentendu. Le communiqué de la Cour constitutionnelle hier laissait comprendre que le scrutin présidentiel devrait se tenir au plus tard le 5 mars. Idriss Fall a joint à Lomé Gilbert Bawara, ministre de l'administration territoriale, qui fait la différence entre convoquer le corps électoral et fixer la date des élections.
Préciser qu'il n'appartient ni au gouvernement ni à la Cour constitutionnelle de définir la date des élections de manière générale. Ce que la Cour constitutionnelle a cherché à faire hier à travers son communiqué, c'est de situer l'opinion publique des Togolais, les partis et les acteurs politiques, en mettant l'accent sur la période de convocation du corps électoral. La convocation du corps électoral ne doit pas être confondue avec la date de tenue du scrutin, mais à partir des indications de la Cour constitutionnelle, on doit en déduire que l'élection présidentielle aura lieu au Togo à la mi-avril 2015. La date précise du scrutin sera fixée par un décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission électorale nationale indépendante.
Maintenant, qu'allez-vous faire de la revendication de l'opposition qui veut une réforme de la Constitution pour limiter les mandats présidentiels?
Le débat sur la réforme constitutionnelle et institutionnelle est un débat démocratique, un débat sain. Ce débat ne doit pas avoir un lien de cause à effet ou de conditionnalité par rapport au calendrier et au chronogramme de l'élection présidentielle.
Gilbert Bawara, ministre togolais de l'administration territoriale.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Burkina Faso, après la réduction de moitié des salaires des 90 membres du Conseil national de transition, qui gagnent désormais 880 000 francs CFA, c'est au tour du président Michel Kafando de rendre des comptes à la population. À Addis Abeba, la semaine dernière, le président de transition a affirmé gagner 1,5 million de francs CFA par mois, environ 2600 dollars, ajoutant qu'aucun membre du gouvernement ne gagnait plus de 600 000 francs CFA, environ 1 000 dollars. Nathalie Barge a joint notre confrère Pierre Dabiré.
Au niveau du Burkina, les populations déplorent le fait qu'un certain nombre de décisions soient généralement annoncées à l'étranger. Maintenant, dans le fond, ce que les gens déplorent, c'est que l'aide donnée une information incomplète. Les rémunérations données sont généralement les salaires bruts mensuels des personnalités de l'État, comme les présidents d'institutions, le premier ministre, les membres du gouvernement. Alors, si on ajoute les différentes indemnités, le salaire d'une personnalité avoisine les 1 300 000 francs CFA, ce qui paraît beaucoup pour beaucoup de Burkinabés qui gagnent le SMIC à peine.
Alors, et qu'en est-il des barèmes en vigueur?
Oui, les barèmes en vigueur, nous ne savons pas si au niveau du Conseil national de la transition, c'est-à-dire des autorités de transition, il y a eu des changements. Sinon, c'est sur la base d'un décret. Le décret date de 2008. C'est le décret, je vous donne le numéro du décret, le décret 891-2008 qui fixe les rémunérations du Premier ministre, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Par exemple, le décret dit que le Premier ministre a une rémunération brute mensuelle de 833 000 francs CFA, une indemnité de représentation de 300 000 et une indemnité de fonction de 175 000. Alors faites rapidement le calcul, nous sommes autour de 1 300 000 et quelques.
Alors, est-ce que vous savez si M. Cafando et son équipe ont déclaré leurs biens au Conseil constitutionnel?
Le ministre de la Communication a déclaré hier au cours d'une conférence de presse que les autorités, notamment le Premier ministre et les membres du gouvernement, avaient déclaré leurs biens et que la publication interviendrait incessamment. Alors, donc, nous attendons incessamment pour voir la publication de ces déclarations.
Est-ce que justement toutes ces mesures doivent aller plus loin?
Pour ce qui concerne les déclarations de biens au niveau de la transparence, nous pensons que c'est déjà un pas qui n'est pas mal si nous obligeons les autorités à les déclarer. Les futures autorités seront obligées de les déclarer. Il y a actuellement une loi en discussion au niveau du Conseil national de la transition sur la prévention de la corruption. Et nous pensons que d'autres autorités, les directeurs généraux et un certain nombre de corps de métier seront amenés aussi à déclarer leurs biens, ce qui serait un pas non négligeable dans la lutte contre la corruption. Donc pour nous, ce sont des bons pas de ce point de vue-là. Mais les simples déclarations et les textes de loi ne suffisent pas. Il faut carrément tout un changement de mentalité pour permettre aux Burkinabés de progresser effectivement.
Voilà, c'était le journaliste burkinabé Pierre Dabiré au micro de Nathalie Barge.
En Centrafrique, l'accord de Nairobi continue de faire des vagues. Pour l'ancien ministre Abakar Sabone, président du MLJC, le mouvement de libération des Centrafricains pour la justice, cet accord n'engage que ses signataires. Félix Yepassi-Zembro a pu le joindre.
Pour moi, l'accord de Nairobi n'engage que ceux qui sont là-bas, parce que nous sommes restés dans le cadre strict de l'esprit des accords de cessation des hostilités de Brazzaville. Donc tout accord en dehors de Brazzaville est mis le nom à venir. Donc nous devons rester seulement que dans cet esprit-là.
Et qu'attendez-vous des autorités de la transition?
Pour moi, il faut qu'ils s'activent pour que ce forum-là ait lieu le plus rapidement possible, parce que toutes les solutions de sortie de crise pour le retour de la paix, le désarmement, ne résident que dans les recommandations qui seront dégagées au sortir de ce forum de Bangui que nous tous nous attendons. Donc, sans ce forum-là, même 1001, notre pays ne retrouvera jamais la paix, comme nous avons souhaité.
Et vous serez donc partie prenante à ce forum de Bangui, y compris Dodja et Bouzézé?
Bien sûr, la présence de tous est vivement souhaitée, mais on ne peut pas imposer à qui que ce soit de venir ou ne pas venir. Mais l'essentiel, nous sommes 7 millions de population. Il faut qu'on ait quand même pitié de ce peuple qui a trop souffert. Les politiciens, ils ont d'autres calculs. Mais pour moi, la priorité, c'est la République centrafricaine et le peuple centrafricain. Le peuple a assez souffert et il faut que vraiment on fasse preuve d'honnêteté politique et intellectuelle et de privilégier d'abord l'intérêt du peuple centrafricain. Il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la sécurité, le désarmement. Et tout ça doit se passer seulement pendant ce forum, parce qu'il y aura des recommandations qui seront dégagées.
Abakar Sabone, s'agissant de ce forum de Bangui à venir, il y a certaines factions de l'ex-Séléka qui s'opposent à la présence des membres du gouvernement en ce qui concerne les consultations à la base. Qu'est-ce que vous en dites?
Mais pour moi, la consultation à la base, c'était une perte de temps inutile. La population ne détient pas des armes. Ceux qui détiennent des armes sont alimentés par ceux qui ont signé les accords de cessation des hostilités de Brazzaville. C'est ceux-là qu'il faut les convoquer à Bangui pour assister à ce forum et dire ce qu'ils en pensent. Donc pour moi, il faut que le comité préparatoire de ce forum s'active pour envoyer des invitations à tous les acteurs ciblés et puis de venir à Bangui et puis assister à ce forum pour que la population respire.
Abakar Sabone, président du MLJC. Morgane.
Ici, aux États-Unis, l'épidémie de rougeole qui s'est déclarée en Californie prend de l'ampleur. Il faut dire que la vaccination reste le moyen le plus efficace de prévention. Or, certaines familles, surtout en Californie, refusent depuis des années d'immuniser leurs enfants pour diverses raisons. Au micro de Chérubin d'Orcil, les explications du docteur Yves Renaud, médecin et spécialiste en santé publique à Miami, en Floride.
Ceci vient d'une étude qui a été effectuée, mais c'est une étude qui a été totalement discréditée. Mais malheureusement, cette recherche a fait beaucoup de bruit, a été disséminée partout. Beaucoup de mères, beaucoup de parents, beaucoup de gens qui voient que leurs enfants souffrent de la maladie, de ce qu'on appelle le spectre d'autisme. Ceci rend les gens hésitants à emmener leurs enfants pour recevoir les vaccins aux États-Unis. C'est peut-être le seul pays au monde où on a une si forte intensité de rébellion, je dirais, contre la vaccination. C'est même un défi à la science, c'est un défi au CDC, c'est un défi aux instituts de santé aux États-Unis et c'est un défi aux pédiatres, parce que les pédiatres sont dans la première ligne de défense.
Quel danger encourent ceux qui refusent de faire vacciner leurs enfants?
C'est un danger direct et un danger indirect. Danger direct, c'est que quand l'enfant attrape, parce que tous les enfants non immunisés contre certaines maladies sont susceptibles d'attraper cette maladie. Ce qui fait qu'on pourrait voir des cas de polio, des épidémies de polio aux États-Unis. On peut avoir des épidémies de méningite aux États-Unis. On peut avoir des épidémies de n'importe quelle maladie infectieuse qui sont actuellement contrôlables à travers le monde, que ce soit la rougeole, la rubéole, etc. Mais ces enfants non seulement peuvent attraper ces maladies et leurs complications, parce que nous savons que la polio peut handicaper des gens, ils peuvent rester avec des membres inférieurs endommagés ou handicapés. Mais il y a des dangers indirects. Les dangers indirects, c'est pour les autres enfants. Les enfants qui ont un problème immunitaire, les enfants qui ont un problème pour lesquels les médecins ne peuvent pas recommander la vaccination, ces enfants qui devaient bénéficier de ce qu'on appelle l'immunité de troupeau, le herd immunity, c'est-à-dire que quand tu es dans un endroit où que tous les gens sont vaccinés, bien, vous avez moins de chances d'attraper une maladie. Et bien, tous ces enfants qui souffrent de cancer, qui ont par exemple une maladie immunitaire quelconque, tous ces enfants ne peuvent pas être protégés, ne peuvent pas bénéficier de la protection qui a été présentée par la vaccination.
Est-ce qu'il y a des ramifications politiques à cette situation ici aux États-Unis?
Malheureusement, c'est très politisé. Je ne veux pas identifier un secteur politique en particulier, mais on voit qu'il y a un secteur conservateur aux États-Unis et on voit des candidats qui sont entièrement contre. Ça paraît comme une aberration pour les gens qui sont dans le domaine médical parce que tout le support qu'ils ont pour leur argument, c'est une étude qui a été complètement discréditée.
Docteur Yves Renaud, médecin et spécialiste en santé publique à Miami en Floride.
Chers auditeurs de VOA Afrique, c'est votre gars Roger Muntu de RM Show. Restez branchés ce soir entre 20h et 21h, temps universel, au menu de la bonne musique rap et hip-hop. Dans Antenne Libre, ce soir, la question, le vrai amour entre l'homme et la femme, existe-t-il vraiment? Comment le discerner? Vous avez posé cette question sur notre groupe Facebook Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Certains pensent que l'amour est une grande illusion, qu'en sais-je? Mais nous allons en parler aujourd'hui, pourquoi pas le reste de la semaine. Nous aurons plusieurs invités dans notre studio 13 de VOA. Nous lirons vos mails et vos commentaires postés sur notre groupe Facebook Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Mais appelez aujourd'hui entre 20h et 21h, temps universel, au 001-202-619-3140. 001-202-619-3140. Aïe, l'amour. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition, mise en ordre par Joselle Morissin, à la présentation Chérubin d'Orcil
et Morgane Guiriec.
Retrouvez-nous sur Facebook et voaafrique.com.